Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Steph Paquette. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1. Une interview qui intervient dans le cadre de notre nouveau projet Plus proche de vous. Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Steph, aujourd'hui?
Ça va très bien. Je suis content d'être ici en personne, en chair et en os aussi. On a pu trouver un temps où je puisse rentrer dans les bureaux de chaque FM. Je trouve ça le fun.
Bah ouais, puis moi,
merci de l'invitation.
Bah écoute, de rien, moi je suis très contente de t'avoir avec nous parce que pour la petite histoire, pour dire toute la vérité aux auditeurs de chaque FM, on devait faire cette interview, mais sur Zoom, et j'étais malade. Et voilà, j'étais malade, et du coup on a dû reporter, mais au final, comme quoi des fois, il y a des signes comme ça. Et puis il fallait qu'on se rencontre en vrai. Donc du coup, et ben voilà, on est là tous les deux aujourd'hui en studio, c'est top.
Allez-y, allons-y et pose tes questions, puis je vais voir quelle sorte de réponse que j'ai pour toi.
Bah déjà, avant toute chose, Steph, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent pas encore? Parce qu'il y a peut-être gens sur cette planète et sur Toronto qui ne te connaissent pas encore.
Ben moi, c'est Steph Paquette. Mon vrai nom, c'est Stéphane Paquette, mais je l'ai changé à Steph parce que les anglophones ont bien de la misère à prononcer Stéphane avec un E à la fin.
Stéphane,
yes. J'ai encore les téléphones qui arrivent. Is Stephanie home? Et ma fille va faire non, Stephanie lives here. Raccroche. Et je fais, toi, t'es ma préférée. Je suis auteur, compositeur, interprète natif du Grand Sudbury, en plein centre de la province. Je suis comédien, auteur, compositeur, interprète. Je fais de la TV, je fais de la radio, je fais du théâtre. Je fais un pain aux bananes assez spectaculaire. Je fais de l'anxiété, je fais de l'angoisse. Je fais encore de l'acné, drôlement. Et je fais des enfants. J'ai trois enfants, j'ai trois petits-enfants également. Et je travaille également en éducation autochtone. Je suis médiateur culturel en éducation autochtone. Mais ça, on n'est pas là pour ici. On est ici pour parler de ma carrière d'artiste, j'imagine. C'est ça, non?
Exactement, okay. Mais pas que, parce qu'on aime bien aussi, dans Plus proche de vous, connaître un petit peu les petites histoires qui se cachent derrière les gens. Donc, tu nous disais que toi, t'es né dans la région du Grand Sudbury, c'est ça?
Un petit village qui s'appelle Chelmsford, Chemé, pour les intimes. Et moi, c'est ça, c'est juste en banlieue. Là, maintenant, avec toutes les amalgamations qui se sont déroulées, si on veut, dans les dernières années en Ontario, c'est devenu le Grand Sudbury. Donc, on fait partie du Grand Sudbury. Mais dans mon cœur, c'est toujours Chelmsford. C'est ça. Je suis fils d'une enseignante de français, qui est vraiment le fun, parce que quand t'as 7 ans et tu reçois les bécherelles comme cadeau de Noël, c'est palpitant.
Hein? C'est palpitant, mais au moins tu conjugues les phrases et c'est pas mal. Hein?
Si vous savez pas c'est quoi les bécherelles, c'est trois petits livres, une trilogie d'ailleurs. c'est rempli d'action. Il y a pas grand personnage, mais il y a de l'action en masse. Mon père, c'est un mineur, il travaillait dans les mines, parce que Sudbury, évidemment, une ville créée grâce au Nicolas. Tous deux sont à la retraite. J'ai une sœur plus âgée de 3 ans, 3 enfants, 3 petits-enfants, et voilà, ça c'est mon histoire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci,
à la
à
semaine
bientôt.
Prochaine.
Non mais justement, c'est cool que tu racontes un petit peu tout ça, parce que moi j'aime bien savoir des souvenirs d'enfance.
OK.
Ouais. Est-ce que t'as comme ça quelque chose qui te revient? Alors, je dis toujours un, mais ça peut être deux, trois. Je vais pas te couper dans ton délire de souvenirs d'enfance. Si t'en as plusieurs, tu peux les donner. Mais voilà, deux, trois souvenirs d'enfance quand t'étais petit, des trucs qui t'ont marqué, des bons souvenirs ou des souvenirs qui, sur le moment, c'était pas un bon souvenir, mais avec le recul, c'est assez rigolo. Tu sais, j'ai des anecdotes de t'as eu un accident de vélo, mais en fait, c'était marrant maintenant avec le recul. Bref, des petits souvenirs, des petites anecdotes d'enfance comme ça, Steph.
Ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment... Je vais parler de la slag. Et là, il y a des gens qui vont faire « Voyons, donc qu'est-ce que la slag? »
Ben, moi-même, je ne sais pas ce que c'est.
Voilà, mais bon, quand... Je trouvais ça important de mentionner mon père mineur, ma mère enseignante et tout ça, parce que si je parle encore français aujourd'hui, parce que je suis natif de l'Ontario, c'est grâce à ma mère qui m'obligeait de parler français dans la maison, sinon je jouais dehors. Mais dans le nord de l'Ontario, en février, quand il fait -42...
Tu préfères parler français?
Non, tu te forces, hein, tu te forces à parler. T'es dehors avec ton ami, tu fais « Maybe we should try this French thing because I'm freezing. » Donc, moi, je suis devenu fier franco-ontarien un 21 février 1984. Et mon père est mineur parce que, veux pas, on c'est pas très beau dans le temps, Sudbury. Maintenant, il y a eu toute une reverdure et tout ça. Mais c'était vraiment laid comme ville parce que c'est de la roche, c'est noir, c'est tout ça, mais on est tous et toutes un produit de notre environnement, tu vois. Et pour moi, Sudbury, autant que je me disais, je suis pas faite pour Sudbury, il faut que je quitte ici. Et drôlement, ça fait 49 ans que je suis là, tu sais. J'ai jamais quitté Sudbury. J'ai jamais habité nulle part autre que Sudbury. Et une des choses, c'était la slag. Et la slag, c'est le restant, si on veut. Lorsqu'on extrait le minerai de la terre, on doit chauffer ça à une certaine température. Donc, il y a certains minerais qui ne font pas à telle température, et c'est comme ça qu'on sépare et tout ça. Et si on veut le junk, la cochonnerie du minerai, t'as un petit train qui passait sur le haut d'une côte, et là, c'est des gros barils remplis de lave rouge. Et là, le soir, et là, il coulait ça, et il vidait les barils, et il nous annonçait ça aux nouvelles. C'était annoncé, OK, ce soir, il va avoir, ils vont faire en anglais, le slag dump à telle heure, et mes parents étaient, OK, on va aller voir ça, tout ça. Et
c'était l'événement,
un événement, tu vois. Et t'es dans la station wagon, et là, je sais que c'est un véhicule qui n'existe plus, mais la station wagon vers Moisy, et ma mère mettait un matelas, moi, ma soeur, on était en arrière, et ils stationnaient de reculons pour qu'on puisse faire face à la slag. Et c'était un événement qui n'existe plus à cause, évidemment, des changements de loi environnementales, etc., ouais, etc. Mais c'était unique à Sudbury. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu poses cette question-là, parce que j'ai vu une image sur la slag. Vous irez sur Google, la petite affaire Google, mettez slag, S-L-A-G, ou slag dump, D-U-M-P, et vous allez voir, c'est quand même quelque chose. C'est comme un volcan qui est en éruption, mais c'est des minéraux qui viennent de sortir de la mine. Et c'était vraiment unique à Sudbury. Je trouve ça cool, tu sais. Puis ça me manque. J'aurais aimé que mes enfants aillent cette expérience-là, mais ça n'existe plus depuis des années, tu sais.
Mais tu peux te faire un petit slag dans ton jardin, hein? Tu vas à Dollarama, tu t'achètes les petits camions, là, tu sais,
oh oui, c'est
de
ça.
Construction. Tu te mets deux, trois pierres chaudes dedans, et puis voilà, hein?
Pas sûr, mais ça va avoir le même effet, mais... J'accepte ton idée.
On va rester un petit peu dans cette période de l'enfance, cette période où tu es un petit garçon. À quoi tu te rêvais, Steph, quand tu étais petit? Est-ce que tu savais un petit peu vers quoi tu allais tourner d'un point de vue carrière professionnelle? Est-ce que tu te rêvais slagueur? Est-ce que tu te rêvais dans le monde culturel? Est-ce que tu te rêvais dans l'éducation? Ou alors pas du tout, tu te rêvais pilote de ligne, tu te rêvais surfeur professionnel, skieur professionnel, pompier? Que sais-je, mais à quoi se rêvait le petit Steph quand il était petit?
C'est drôle que tu dis ça parce que ma fille est aux études pour devenir pompière présentement. C'est drôle, je sais vraiment pas. Moi, j'étais un gars de skateboard et de joueur de hockey. Veux pas, il y a une expression qui dit « Si t'es né dans le nord de l'Ontario, t'es né avec une paire de patins. » Tu apprends presque à patiner avant que t'apprennes à marcher, tu vois. Et patiner, c'était très important. J'ai joué quand même un haut niveau de hockey et des grosses pratiques. Écoute, je me suis promené là, tellement beaucoup. Ma mère était même entraîneur de l'équipe pendant des années.
Ah oui, c'était
années,
une affaire de famille,
ça.
Là.
Ouais, c'est une affaire de famille. J'étais gardien de but et c'était vraiment... tu sais, j'aurais pu choisir la chanson de Tom Cochrane, « My boy's gonna play in the big leagues ». Tu sais, « My boy's gonna play ». Parce que c'était ça, c'était vraiment mon père, là. Puis on vivait, on mangeait du hockey. Même l'été, j'allais à des camps d'entraînement de hockey. C'était vraiment ma vie, tu sais. J'étais pour être
genre
un joueur
de hockey.
Genre
des colonies de vacances spéciales. Et tout. Ah ouais.
Donc, j'étais pour être un joueur de hockey professionnel ou même demi-professionnel. Et ça n'a pas viré de même. Surtout quand vous me voyez la shape de nos jours, vous faites « Non, ce gars-là, il n'y a pas la musculature pour être gardien de but professionnel. » Mais c'était vraiment ça. Mais chaque chance que j'avais au jouer au hockey, que ce soit hockey de rue, sur la glace, même dans la maison, des petits bâtons qu'on a pété plein de vases et plein de gosse à ma mère.
Elle t'a jamais rien dit?
Ouais, non. Ma mère, ouais, non. Disons, la petite cuillère, cuillère, la petite cuillère en bois, là, a bien servi.
Et pas que pour tourner la soupe.
Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'était vraiment ça, c'était vraiment le hockey, là, dominait ma vie, là. C'était vraiment, j'étais pour être un joueur de hockey dans ma jeunesse, c'est sûr.
OK, ouais. Et à quel moment, du coup, tu t'es tourné vers une carrière artistique? Au sens large, parce que toi, t'as plusieurs casquettes. T'es comme moi, il y a toujours un truc sur ta tête. Que ce soit la musique, l'acting, parce que t'as fait de la série télé, t'as fait du cinéma, tu fais de la radio. C'est pour ça aussi que le monsieur a une voix aussi suave et aussi sympathique.
Sur ma belle voix de radio.
C'est
là.
Ça, il nous a sorti sa voix de Barry White. Non, mais voilà, tu t'es plus carrément tourné à une carrière artistique. À quel moment t'as ce déclic? À quel moment, à la fin de tes études, tu te dis... Bah déjà, quelle étude t'as fait? Et à quel moment ça switch et tu te dis... Ah, ouais, non, le hockey, non, en fait, je vais quand même faire un truc plus en lien avec l'art, avec la culture.
Ouais, 12e année, je pense. 12e année, je me retrouve à un tournoi d'improvisation provincial.
Tu te retrouves ou tu t'inscris?
Ben, je me suis inscrit, j'avais pas d'équipe, on n'avait pas d'équipe à notre école secondaire, donc en 11e année, je me suis inscrit pour être spectateur. Je voulais voir c'est quoi ce jeu-là d'improvisation, donc c'est vraiment le jeu d'improvisation, donc ce jeu-là créé par Robert Gravel, qui ressemble au hockey, mais qui est du théâtre. Donc évidemment, n'oubliez pas, je suis un fanatique de hockey, et là je fais, écoutez, on a créé un jeu de théâtre qui ressemble au hockey, on joue dans une mini patinoire, et etc., etc. Et j'ai trouvé ça vraiment... Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Donc, l'année après, en 12e année, je me suis inscrit et je me suis fait... former des équipes sur place. Et j'ai fini par... notre équipe a fini par gagner le championnat. Et là, je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce... Et être devant les gens, sans des équipements d'hockey, tout ça, et faire rire les gens, et entendre les gens rire, c'était vraiment ma première expérience sur scène. Donc, ma mère dirait que c'est pas vrai. C'est quand j'avais 6 ans, aux noces, à mon cousin, que j'ai monté sur scène et j'ai chanté « L'arbre est dans ses feuilles ». Mais, pour moi, c'était vraiment ce moment-là. Et là, je me suis approché par des gens comme Jean-Sébastien Busque, Mathieu Pichette, qui font toujours de la télévision de nos jours, puis on dit, regarde, nous, on va avoir un petit projet à TFO. Dans le temps, c'est encore, je pense, TVO français. Il dit, nous, on veut vraiment être les Rock et Belles Oreilles de l'Ontario français. Et déjà là, je fais... Cool, mais j'ai aucune idée c'est qui Rock et Belles Oreilles. J'avais vraiment là aucune idée ce qui se passait au Québec et tout ça. N'oublie pas, il y a pas d'internet dans ce temps-là.
Ouais, c'est ça.
Il y a pas, on n'est pas connecté comme on était.
Il y a pas l'ami Google dès qu'on a une question, on se dit bon bah Google la simplicité.
Ouais. C'est ça. Donc il y a ces deux gars-là qui arrivent du Québec, qui sont à Sudbury parce que leurs parents ont eu des emplois puis se retrouvent à Sudbury tout ça et qui me parlent d'artistes, ils me parlent de Québécois que j'ai aucune idée c'est qui ces gens-là. Puis je dis garde quoi, je vais aller voir c'est quoi cette affaire-là. Et là, je me suis joint au groupe. Le groupe s'appelait dans le temps Jeune Esprit. On a commencé à faire de la TV, de la télévision pour TVO, après ça TFO.
Mais pour faire du stand-up, pour faire
du... Non, c'était comme du sketch TV, comme Rock et Mazarin le faisait dans le temps et tout ça. Et je me suis vraiment amusé et on tournait dans le théâtre du Nouvel Ontario à Sudbury. Et donc là, c'est là que j'ai découvert le théâtre francophone de chez nous. Et ça a juste fait boule de neige après ça, tu vois. Ça fait boule de neige. Moi, je parlais très peu français au secondaire et même à l'élémentaire. Et c'est pour ça que ma mère obligeait qu'on parle français dans la maison. Bon, elle nous imposait pas la télévision en français, mais ma mère, elle vient d'Hearst, d'Halibourg, qui est à peu près 6 heures au nord de Sudbury. Donc, d'ici, c'est facilement un bon 10-11 heures. Et quand t'es dans... une voiture vert moisi, c'est la couleur.
Oui, je vois que tu as insisté, ça fait deux fois que tu dis vert moisi.
C'est vraiment, je veux vraiment que les gens comprennent, qu'ils se ferment les yeux, puis qu'ils voient la couleur vert moisi. Et tu te promènes pour aller voir de la famille à Hearst, à 6 heures de route. T'as pas de téléphone cellulaire, t'as pas d'iPod, t'as pas d'écouteurs, t'es pogné à écouter la musique à ta mère, tu sais. Mais ma mère avait toujours de la musique qui jouait, tu vois.
Et probablement. La musique francophone?
Et je dors, oui, et tout le temps de la musique francophone. Donc, du Mireille Mathieu, Angèle Arsenault, etc. Et le stock anglophone, c'est avec quand même du bon goût. Du Simon & Garfunkel, tu sais, du Gordon Lightfoot. Qui, c'est sûr, quand t'as 8-9 ans, tu t'en fiches-tu de Gordon Lightfoot et Simon & Garfunkel?
Ouais, c'est plus avec le recul où tu dis, ah, voilà, c'était pas si mal.
Voilà,
en fait,
voilà. Et là, t'achètes ta première guitare, tu fais, hey, je pourrais-tu emprunter tes...
tes vieux trucs,
tes vieilles cassettes de Simon & Garfunkel puis Gordon Lightfoot, s'il te plaît, maman? Mais c'est vraiment ça, là. C'est vraiment le moment, pour moi, déclencheur. Je me dis tout le temps, je suis pas auteur, compositeur, interprète. Moi, je suis un improvisateur qui a acheté une guitare.
Et qui a improvisé, du coup.
Et voilà, tu vois. Et pour ça, mes spectacles sont si différents d'un spectacle à l'autre. Les chansons ne changent pas. L'ordre des chansons change toujours. Pour moi, j'essaie de créer un moment, de vivre un moment, de dire, OK, ce soir, okay, la foule est différente, est moins grande ou est plus grande. La salle, comme hier, j'étais en spectacle, d'ailleurs, hier soir. Donc, tu as un plan de match en rentrant. Là, tu fais, oh non, non, ce plan de match-là ne fonctionnera pas. Coach, je vais prendre mon expertise en improvisation et j'essaie de créer des spectacles sur mesure, si on veut. Mais c'était vraiment ça, là, c'était vraiment l'improvisation qui a tout commencé. Et ensuite, je suis allé voir La Brunante ou La Nuit sur l'étang, qui est une soirée musicale qui a célébré 50 ans cette année, d'ailleurs. Et j'ai été très fier de dire que j'ai animé le 50e de La Nuit sur l'étang. Et c'est là où j'ai fait, OK, faut que je m'achète une guitare. Là, c'est fait, là. Je fais, voyons donc, le monde, ils sont sur scène, ils jouent de la musique, puis ils chantent en français. C'est quoi cette affaire-là? Et là, j'étais allé voir mon père. On a acheté ma première guitare à 125 $, que j'ai toujours.
Oh.
Et the rest is history, comme qu'ils disent. Je me suis associé au groupe en bref. Yves Doyon, tout ça, je tournais avec eux autres, c'est moi qui vendais les cassettes, oui, cassettes, mesdames et messieurs, après les spectacles, et dans la chambre d'hôtel, le soir, ils me montraient des accords à la guitare, et ça a tout commencé ça, comme ça. Mais c'est vraiment, là, c'est drôle, parce que je me dis, si je m'étais pas inscrit personnellement, là, c'était pas, on n'avait pas d'équipe d'impro, là, au secondaire, c'est vraiment moi qui ai fait, garde, je vais aller voir ça, je sais pas, je serais où aujourd'hui, je sais pas, peut-être que je serais en Europe en train de jouer au hockey, je serais en meilleur shape, je serais plus riche, mais peut-être moins heureux.
Mais peut-être moins heureux, ouais, c'est voilà. Ce que j'allais te dire.
Donc, c'est vraiment ça, c'est l'impro qui a ruiné ma vie. Tout ça pour dire l'improvisation. Découragez vos enfants de faire de l'impro, s'il vous plaît, ça ruine des vies.
Qu'ils ne fassent pas d'impro. C'est nul, après vous allez devenir comme Steph Paquette. Ne faites pas ça.
C'est ça.
Alors du coup, avant qu'on bascule un petit peu sur tes premiers pas dans le monde de la musique, on va lancer la première chanson de ta sélection musicale. C'est une chanson qui s'appelle Le Frigidaire de Tex Le Corps. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette chanson, pourquoi fait battre ton cœur cette musique?
Tex Le Corps et Roger Whittaker font partie de mon enfance. C'est vraiment ma mère qui me faisait des cassettes parce que ma mère collectionnait des vinyles, des records, comme on dit en bon français, des disques vinyles. Mais elle enregistrait tout sur des cassettes pour moi.
Pour que tu mettes dans ton Walkman?
Yeah, puis elle me faisait des mix, t'sais, des affaires, puis des affaires comme Ma belle machine de Roger Whittaker. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Et Tex Le Corps qui faisait Avez-vous vu ma truie? Qui me drôle. Je riais, j'étais jeune, je trouvais ça drôle comme chanson. Et évidemment, tant qu'il restera quelque chose dans le frigidaire. Et faut que tu t'imagines, là, t'es pogné dans une station wagon, quelle couleur encore?
Vermoisi.
Voilà, pendant 6 heures de temps.
On fera un quiz à la fin de l'émission.
Ouais. Vous gagnez ma recette de pain au
banane. Vous gagnerez la miniature de la voiture vermoisi.
et donc, ça fait juste partie de ma jeunesse. Tu vois, pour moi, c'est Tex Le Corps, c'est vraiment le premier chanteur, je pense, francophone. Si tu me poses la question, là, le premier chanteur francophone que tu as entendu, que ta mère te... C'est vraiment entre Tex Le Corps et Roger Whittaker. Et je sais pas pourquoi mon cœur est avec Tex Le Corps le jour où j'ai rempli tes questions, j'ai répondu tes questions. Donc, c'est le frigidaire. Et là, depuis la pandémie, ben, je vis dans le frigidaire, c'est sûr, comme tellement d'autres personnes. Donc, c'est ça. C'est nostalgique et pas en même temps, t'sais.
Eh bien, écoute, on va tout de suite faire découvrir ou redécouvrir ce morceau, Le Frigidaire de Tex Le Corps, aux auditeurs de chaque FM 105.1.
Qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur le pain.
Moi qui avais des belles îles, des buts et des sillons, me v'là perdu en ville. Tout seul dans des millions, je vis sur les autobus, au Pizza King du coin. Les gens me parlent pas plus,
que si j'étais un chien. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain.
Voilà, c'était un extrait de cette chanson, Le Frigidaire de Tex Lecor. Ça me fait rire parce que c'est limite une chanson de pandémie, en fait.
Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça.
Je crois qu'il reste quelque chose dans le frigidaire, ouais, je fermerai ma gueule, je prendrai le métro.
Je laisserai faire, tu vois, c'est vraiment ça, c'est est immortel, cette chanson-là.
Le mec est visionnaire, en fait. Ouais. Alors du coup, là, on est à l'époque de ta vie où t'as l'impro, t'as ce truc qui explose dans ta vie, tu dis, ouais, ça t'ouvre en fait plein de portes, parce que du coup, t'es amené à faire de la télé, c'est un monde que t'étais pas du tout, enfin, tu t'étais pas du tout projeté là-dedans. Mais il y a quand même un truc avec cette histoire de guitare que t'achètes, à un moment donné, t'as peut-être les cordes vocales qui te gratouillent, tu dis, ah, je vais peut-être faire de la chanson, en fait.
Ouais.
À quel moment ça intervient? À quel moment tu dis, bah, de l'impro et de cette gouaille que j'ai, ce truc que j'ai, où quand je suis sur scène, j'aime bien faire rire les gens, bah, en fait, je vais aussi prendre de cette énergie pour leur donner une émotion et chanter, en fait. Parce que quand t'es sur scène, il y a deux trucs. Soit t'es là pour faire la blague, la petite blagounette, on rigole, puis on se casse. Ou alors on reste et puis on chante. Et puis, parce que toi, dans tes spectacles, tu fais pas que chanter, tu animes aussi le truc. Tu es le propre MC de tes concerts, en fait, c'est ça.
C'est ça.
Mais comment ça intervient, ce truc où tu dis, ah, la chanson, en fait, ça peut-être c'est pas mal aussi.
Ouais, c'est drôle, parce que là, faut pas oublier que ma mère était plus qu'heureuse, là. Que je découvrais ce côté artistique-là.
Non, mais elle était surtout contente.
Surtout le côté francophone.
Non, elle était surtout contente que t'arrêtes tes bêtises avec tout cassé chez elle.
Voilà.
Que t'arrêtes le hockey.
Voilà, exactement. Mon père, beaucoup moins. Mon père, encore une fois, tu vois, c'était le hockey. Et je me souviens quand j'ai décidé, je m'en vais pas jouer au hockey, je lâche ça. Moi, je vais être un artiste. Ça a été très difficile pour mon père. Mon père et moi, on s'est pas parlé pour presque 3 ans.
Ah ouais, quand même?
Ouais, mon père avait vraiment, là...
Une déception, un peu?
Ouais, voilà. Et surtout que j'avais quitté aussi l'université. Donc, j'ai jamais fini mes études à l'université. Mon père, qui était pas éduqué non plus, il avait beaucoup d'espoir que son fils ou sa fille, ma soeur aussi, a jamais complété ses études au collège, qu'un de ses enfants serait éduqué. Tu vois, parce que mon père vient d'une grande famille et des gens qui sont tous des enseignants-enseignantes, des gens éduqués. Là, ça fait un bout, mais quand on parlait, c'est bon, ben nous, on était à tel collège, université, notre fils est à toi. Tu fais quoi, Stéphane? Ben, je joue de la musique. Non, mais qu'est-ce que tu fais pour vivre?
Ouais, c'est pas ton hobby.
Ouais, on parle
pas de hobby, là.
Ouais, c'est ça, là. Donc j'ai absolument compris plus tard pourquoi que mon père, la déception de mon père, tu vois, ça avait rien à voir que j'avais fait ce choix-là. C'était vraiment, je pense, l'image ou le fait qu'encore une fois, tu vois, ses sœurs et ses frères seraient encore une coche plus, tu sais, éduquées, tout ça.
Ouais.
Mais là, c'est quand j'ai commencé à faire des spectacles et quand ça commençait à rouler et là que je commençais à gagner des prix, etc., ben, mon père a pris sa retraite et il est devenu mon conducteur, mon chauffeur. Il me chauffait, puis là, il était... Puis le prochain spectacle, c'est quand, là? Quand est-ce qu'on retourne?
Ouais.
Et donc, on dirait que c'est de se reprendre pour le temps perdu qu'on s'est pas jasé pendant 2-3 ans, tu vois. Mais pour moi, le côté musical où ça accrochait vraiment, c'était vraiment ça, la brunante, la nuit sur le temps, ma mère. J'étais trop anglophone encore. Je pense que je venais de piquer une crise à ma mère. J'ai dit, « Maman, là, mon nom, il est... » c'est sûr, je l'ai dit en anglais juste pour la faire chier encore plus. J'ai dit, « My name is too French. You need to change my name. »
Oh, wow.
Et là, ma mère, oh. Oh boy, c'était pas... Donc, elle m'a pris par le collet, parce qu'on avait le droit dans le temps, et...
Parce qu'elle n'avait pas sa petite spatule en bois.
Ben non, mais là, elle avait un martinet. Je sais pas si vous aviez
moi,
ça,
moi, j'ai eu ça. Oh là, moi, je l'en ai eu, hein.
Yeah.
Je me rappelle... Oh là là, mes parents vont rire s'ils entendent ça. Moi, il était dans le tiroir de l'entrée.
OK.
Et je me rappelle que quand je faisais des bêtises, juste, ils ouvraient le truc,
T'entends juste le tiroir ouvrir.
Ouais, et je savais que c'était le bruit de ce tiroir, et je savais que ce qui allait arriver, ça allait pas être cool. Et du coup, j'essayais de me cacher dans ma chambre. Donc, j'ai toujours été très grande. Du coup, me cacher, c'était un peu, voilà, la blague. Donc, j'essayais de me cacher sous mon lit ou quoi. Mais bon, je suis fille unique. Donc, ma mère, elle avait vite à me retrouver, tu vois. Et le martinet, ouais, avec un manche en bois et puis les lanières en cuir.
Yes. Et nous, on avait ça dans les écoles ici. C'est des écoles qui, des religieuses.
Ah, ben oui.
Et je me souviens du jour où mes parents regardaient les nouvelles et on annonçait qu'on retirait les martinets des écoles. Et moi, je pense que c'est la première fois que j'ai pleuré.
De joie?
le premier jour où je me souviens où j'ai pleuré, j'ai fait « Mon Dieu, c'est le plus beau moment, jour de ma vie. Je vais faire toutes les conneries que je veux à l'école. Je vais avoir des retenues, mais personne ne va pouvoir me frapper. » Évidemment, jour d'après, j'ai décidé de faire une connerie. Désolé, Francine. Francine qui grimpait la clôture et moi qui ai décidé de tirer les pantalons et Francine qui est poignée sur la clôture, les fesses à l'air. Et moi qui rentre et qui pleure comme une bonne et moi qui trouve ça drôle. Et moi qui rentre au bureau de la directrice et là, hein, avec toute la confiance au monde, elle dit, garde, pas de différence, vous pouvez pas me frapper de toute façon, tu sais. Et j'arrive à la maison, et ma mère arrive du travail, puis elle fait, bon, j'ai reçu un appel, voilà. Parce qu'évidemment, tous les petits villages, là, tous les enseignants, les enseignantes se connaissent, tout le monde, tu vois, ça a l'air que, hein, t'as fait pleurer Francine,
ouais, puis,
hein, t'as eu une retenue,
ouais, mais anyway, j'ai pas eu le matinet, parce qu'ils ont plus le droit d'avoir des matinets.
Elle dit, t'as absolument raison, ils peuvent plus te frapper dans les écoles.
Mais moi, je peux encore.
Voilà. Et c'est ma mère qui a hérité du martinet de son école.
Mais non.
Quand ils ont retiré, ma mère a fait « Non, non, regarde-moi, je vais l'amener à l'école, à la maison, parce que là... »
Vous, vous pouvez plus l'utiliser, mais moi, ouais, j'en ai encore besoin.
C'est ça. Donc, donc j'ai encore des séquelles, là, quand... de ça. Mais drôlement, tu sais, c'est ma mère qui, quand j'ai décidé de faire de la musique ou quand je parlais pas, on était où, là? Oh, j'ai fait de la crise, j'ai fait mon nom est trop francophone, change mon nom. Elle me prie à m'envoyer, à m'obliger d'aller voir la nuit sur des temps tout seul. J'ai personne, j'ai pas de permis de conduire, j'ai rien. Elle me sac là, elle achète le billet, puis elle fait go, va découvrir de la musique francophone. Je sais, voyons donc, c'est quoi? C'est déçu.
Elle t'a mis en immersion, en
voilà,
tout cas.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme déçu stupide. Ouais. Par la fin de la soirée, je suis comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? What? Et tout ça. Et,
en fait, de te rendre compte que t'étais pas tout seul.
Voilà.
Ben ouais. Là-dedans. Et là, qu'il y avait des trucs cool, en fait.
Voilà, que je côtoyais à l'université. Des gens, je fais, ben voyons donc, tu sais. Au secondaire, pardon, avant que j'arrive à l'université. Puis je fais, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'arrive à l'université. Puis je me dis, de la merde, je vais avoir théâtre à l'université. Je lâche le hockey. J'achète ma première guitare. Et parce que là, j'étais entouré de ces gens-là. C'était, je faisais du théâtre. Donc là, il y a des joueurs de guitare là-dedans, donc j'ai appris la guitare et tout ça, puis c'est vraiment ça, puis j'avais vraiment pas le goût, drôlement, de me retrouver dans un bar, parce que dans le temps, ils fumaient encore dans les bars.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je me suis dit, je veux pas jouer dans la boucane, tu sais. Je veux pas arriver à la maison, puis tout mon linge sent la boucane, puis ça me tente pas d'apprendre les chansons des autres, je veux apprendre mes propres chansons, parce que ça a juste tombé. Alors là, on sort des affaires, là, tabarouette, ça a pas d'allure. Julie. Je donne juste des premiers noms. Ma copine, dans le temps, Julie, elle était en littérature, elle écrivait beaucoup.
C'est sympa pour avoir des textes de chansons.
Voilà.
Gratos.
Donc, mes premiers textes de chansons, c'était ma copine Julie. Puis c'était elle qui était vraiment encourageante. Elle dit, garde, t'es capable, là. Puis c'est sur les premières chansons, c'était tout croche, là, voyons. Tes doigts, juste le placement des doigts et tout ça. Mais c'est tout cet entourage-là, tu vois. Et là, j'allais à des parties. Des parties, c'est comme, OK, du monde qui jouait des guitares. Donc, moi, j'étais juste assis là, puis je regardais les doigts, puis j'étudiais, tout ça. Je traînais ma guitare des fois, puis j'essayais de jouer avec, puis c'est tout croche. Mais je me présentais dans ces soirées-là. Je m'immersais dans ces soirées-là, tout le kit, et j'avais une copine qui écrivait des textes de chansons, donc ça a juste tombé de même. Et là, je suis devenu... j'ai été demandé d'aller, pas arbitrer, mais entraîner une équipe d'improvisation du secondaire. Encore de l'improvisation, tu vois. Une école, le secondaire de Chelmsford, l'enseignante dit, garde, moi, je suis pas très connaissante là-dedans, puis je dis, pas de problème, je vais venir avec ton équipe, je vais venir aider ton équipe. On est à Hawkesbury, et y'a-tu pas trois jeunes qui jouent de la musique dans une chambre d'hôtel? Guitare, basse, et l'autre, il frappe avec des bâtons. Puis je passe dans le corridor, puis je les entends, puis je fais, hey, salut, ils disent, ah, ben, on est de Chelmsford. Je fais, voyons donc, tu sais, moi aussi, je suis dans une autre école, mais cool, avez-vous besoin d'un chanteur? Oui, on n'a pas de chanteur. Et là, mais après le tour, moi, on va... Et ça a juste arrivé de même. C'était vraiment...
Incroyable, la coïncidence.
Ouais, c'était vraiment comme organique, comme ça. Et pur hasard. Et du jour au lendemain, on se retrouve dans la cave chez Guy Coutu et on fait du bruit. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment de faire du bruit. Malheureusement, il y a eu séparation chez les parents Guy, donc on s'est déplacé vers notre batteur dans la cave chez les Tremblay. Et là, les Tremblay étaient tellement heureux parce qu'on fait... Puis ma mère aussi, parce que j'étais un jeune qui était assez quand même troublé. Tu sais, pas troublé, mais je m'en fichais un peu de la vie puis de toutes les choses autour. Je faisais du skateboard, j'étais plus dans le hockey. Tu sais, je pétais des affaires.
Un peu en marge, quoi.
Ouais, c'est ça, tu sais. Mais je sais pas comment souvent que la police me ramenait à la maison, tu sais.
Ah, ça arrivait, ça?
Oh, yes. Ah. Ma mère, encore une fois. Et là, des fois, on répétait dans le garage chez nous. Et notre voisin était anglophone. Et je sais pas si c'est parce qu'on faisait trop de bruit ou parce que c'était en français. Ouais. Mais là, la ville, il y a un travailleur de la ville qui venait pour, évidemment, les lois municipales, donc en anglais, bylaw officer, qui venait parce qu'il y a eu une plainte de bruit, de son, tout ça. Et ma mère qui sortait carrément qu'un bat de baseball.
Devant la police?
Puis qui c'était l'interception là du gars de la ville. Puis elle dit, garde mon fils là, il est dans ce garage là, puis je sais qu'est-ce qu'il fait, puis il dérange personne, puis il cause pas de trouble. Elle dit, garde là, on va le laisser jouer de la musique, c'est-tu compris là? Puis je sais pas combien de fois que j'ai vu ma mère faire ça, puis je me disais, holy cow, ok man. Comme la musique a vraiment, c'était plus que juste une découverte ou de.
C'était un peu ton catalyseur quoi, yeah, ton canalisateur. Yeah, yeah. T'étais canalisé, ton énergie, elle était focus sur un seul truc, t'allais pas t'éparpiller quoi.
Donc j'ai vu ce que ça a fait, tu sais, ma mère est super heureuse, puis notre groupe s'appelait les Chaises Musicales. Évidemment, on a changé les S avec des Z parce qu'on se pensait cool. Puis aussi, ma mère est enseignante, donc je l'ai mal éplé. Par exprès, juste pour, tu sais. Donc, les Chaises Musicales, notre premier groupe, puis on a gagné la Grunante, tu sais, un concours pour des groupes franco-ontariens.
Vous étiez les premiers, je crois,
franco-ontariens à gagner ce truc-là. Non, ça, c'était Chanson en fête de Saint-Ambroise,
un peu plus tard. C'était Saint-Ambroise. Après, ouais.
Dont j'ai nommé ma fille Ambroise parce que j'étais là lorsque ma fille est née. Et là, tu sais, juste, on a gagné, ma mère a fait un gros party, tout le kit, ma mère est fière, mon père m'a acheté un télécopieur.
Wow.
Donc, c'était ça la différence entre ma mère et mon père. Mon père, il n'avait aucune idée de ce que je faisais. Il ne comprenait pas, tu sais.
Ouais, parce que c'était loin de son milieu ouvrier à lui, en fait. Voilà. En soi, il n'y a même pas à se dire, il était complètement éloigné. C'est juste, c'est pas son monde, tu vois.
C'est pas une job. Tu travailles avec tes mains.
Tu vois pas la chose différemment quand tu te lèves le matin, que tu travailles dans un milieu où c'est difficile et tout. Là, limite, on se dit, mais c'est vraiment un travail, ça. Il est là à chanter, à gratter sa guitare, à monter sur scène, chanter devant des gens, mais ça c'est un hobby, c'est pas un travail. Donc pour les gens qui ont des travails super difficiles, ça peut se comprendre. Puis en plus à l'époque, il n'y avait pas tous ces internets où tu vois ce qui se passe ailleurs dans le monde et que ça fonctionne en fait.
C'est ça mon père, c'est parce qu'il a quitté Sudbury quand il était très jeune, à l'âge de 17 ans. Il est allé s'inscrire dans le Navy américain. Mon père c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Mon père a quitté avec le Navy américain pour aller
Oui, donc la musique et Vietnam, le monde artistique, donc, c'est vraiment loin de sa sphère à lui, tu vois.
C'est ça. Donc lui il est revenu à Sudbury. On embauchait dans les mines, c'était un emploi garanti. Tu prends pas de risque, là.
Ouais.
Tu prends pas de risque, là. Tu prends la job garantie. Et mon père a travaillé pendant 34 ans une job qu'il a détesté.
Mais ça faisait vivre la famille.
Voilà.
Ça mettait du pain sur la table.
Ça mettait du pain sur la table. Et ça l'a payé mes broches, tu sais. Puis c'est drôle que je dis ça de là, parce que, tu sais, pendant longtemps, je me moquais un peu de mon père, tu sais. Je me disais, garde-les, il travaille, il est pas heureux. Il travaille une job qu'il aime pas. Puis moi, je serai jamais de même, tu sais. Je serai jamais de même. Puis là, tu réalises à quel point que...
C'est un sacrifice, en fait.
Voilà.
Ben oui.
Voilà, tu sais. Puis, tu sais, la guitare, c'est venu de ça, tu sais. Mes broches, les dents que j'ai, c'est venu de ça, tu sais. J'ai jamais crevé. Il y avait tout le temps du beurre de peanut dans le frigo, tu sais. Mais tu réalises pas ça. Puis là, une fois que t'as des enfants, tu fais...
Et que tu commences à gagner tes premiers sous et à payer tes premières factures et à dire, ah ouais, en fait, la vie, c'est moins rigolo, quand on commence à assumer tous ces trucs-là.
Et donc, c'est pour ça, une de mes chansons, on se revoit à soir, tu sais, c'est on se lève le matin, même si c'est la ligne, pour mettre du beurre puis du pain sur la table, tu sais. C'est vraiment pour rendre honneur à mon père, tu sais, puis qui a fait cette job-là, qui a détesté, mais qui était nécessaire, tu vois.
Mais justement, on va faire un lien avec la deuxième chanson.
Oui.
parler de mine, on va parler de train maintenant avec cette chanson.
Vilain pingouin.
Et ouais, vilain pingouin. La chanson s'appelle Le Train. Steph, explique-nous un petit peu pourquoi cette chanson.
Là, j'entends déjà l'harmonica dans la tête. Là. Parce que pour moi, c'était mon initiation à la musique rock francophone. Tu sais, pour moi, la musique francophone, c'était soit ça venait de la France, il y avait un accent, que ça soit du, je sais pas, du Yves Duteuil ou du Jacques Brel ou du, je sais pas, de Mireille Mathieu, etc. C'est peut-être pas France, mais européen aussi, tout ça. Mais, et là, ou de la musique folklorique, tu sais. Canadien, français, souvent, on se dit, regarde, c'est violon, rigodon et tout ça. Et là, mes chums du Québec qui font, ah, nous autres, on écoute Vilain Pingouin. C'est ça, Vilain Pingouin, c'est weird comme nom de groupe. Et là, évidemment, cassette encore une fois, pèse plein sa cassette. Puis je fais, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Petite voix rauque, là, tu sais, comme, là, Jack Martin, voilà, attends. Je fais, oui, ça existe, ça, du rock'n'roll en français? J'avais aucune idée, tu vois. Et donc, Vilain Pingouin, les deux premiers albums ont vraiment changé ma vie. Et drôlement, j'ai eu la chance de rencontrer Rudy Kaya, qui est le chanteur du groupe Vilain Pingouin. Il était le juge en chef de La Brunante l'année qu'on a gagné La Brunante.
Ah, énorme!
Et j'avais les cassettes, puis je me souviens, il y avait quelque chose, tu sais, c'est genre le full circle, comme on dit, tu sais. Puis de dire, tabarouette, toi, je t'ai écouté pendant longtemps, tu sais. Puis là, t'es assis là, c'est nous autres qui gagnent, je suis dans un groupe francophone, jamais j'aurais cru que un, je serais chanteur, et deux, dans un groupe francophone, et de faire signer mes cassettes par Rudy Kaya, le chanteur de Vilain Pingouin. Puis c'était un moment très important dans ma vie, dans ma carrière, donc je tenais à faire tourner. Et c'est une chanson qu'on avait intégrée aussi dans nos spectacles, les chaises musicales. On commençait toujours nos spectacles avec Le Train de Vilain Pingouin. Donc, c'est vraiment, sans aucun doute, la première chanson francophone que j'ai appris à guitare et que j'ai interprétée sur scène.
Et ben voilà, on va te replonger un peu dans les souvenirs et on va faire découvrir ou redécouvrir cette chanson aux auditeurs de Choc FM 105.1. C'était un court extrait de cette chanson Le Train, mais je trouve que ça n'a pas trop vieilli, tu vois, il y a des trucs, des fois ça fait un peu daté au bout d'un moment. Oui. Là, pour le coup, je trouvais ça plutôt pas mal, moi j'aime bien l'harmonica en plus.
Ouais, ouais, en plus, c'est moins rock que je me souviens, c'est sûr, quand t'es plus jeune, tu sais, oh, c'est ça le rock'n'roll, c'est sûr, ouais. C'est pas des grosses guitares cochonnes et tout ça, mais pour moi c'était un nouveau son, on n'avait pas, puis on n'avait pas accès, tu vois, il n'y avait pas de disquaire.
Il n'y avait pas Spotify.
Ouais, il y avait Spotify et tout ça, ou même de disquaire. Pour aller acheter des disques en français, il fallait se retrouver à Ottawa ou du côté de Montréal pour aller acheter des CD, des disques en français, tu vois. Donc, pour mes chums du Québec qui m'amenaient ça.
C'était le bouche à oreille, en fait.
ouais, c'était vraiment ça. C'est là que j'ai découvert, tu sais, ça, les kermesses aussi, les vulgaires machins, etc., etc., etc. Donc, mais ça a vraiment commencé avec Vilain Pingouin.
Alors, du coup, tu parlais de CD qu'on pouvait pas acheter. Moi, justement, je voudrais qu'on parle de ton premier CD, ton premier album. Et ouais, Oh Boy, 2003. Ça fait 20 ans qu'il est sorti. Déjà, il s'appelait L'Homme Exponentiel. Ouais. T'avais 29 ans à l'époque. explique-nous un petit peu, quel souvenir tu gardes de ce premier enregistrement d'album? Parce que toutes les premières fois, ça a toujours cette petite saveur un peu différente. Quel souvenir tu gardes, toi, justement, de cette période? Tu peux dire que c'est un mauvais souvenir, hein, si c'était nul. Il a fait la tête.
Ouais, c'était... C'était ma première expérience à enregistrer un album. Puis, tu sais, tu dis, les gens, « Hey, t'es une bête de scène. Ah, hey, tu devrais mettre ça sur... on a hâte d'avoir un album et tout ça. » Tu te gardes, OK, cool. On fait demande pour une subvention. On reçoit de l'argent pour une subvention pour créer un album du Conseil des Arts de l'Ontario. Mais moi, je m'y connais vraiment pas. Là, j'ai aucune idée où même commencer, tu vois. Et là, je me retrouve avec Daniel Bédard. J'étais dans son cours de musique à l'Université Laurentienne, donc j'ai failli à son cours de musique. J'ai failli musique première année à l'université. Et c'est lui qui a réalisé l'album. Mais tout était sous son contrôle. So, moi, j'étais juste le gars qui était là.
J'avais... Pour poser la voix.
Ouais, moi, j'ai co-écrit les chansons avec lui, mais tous les arrangements, parce que j'étais...
Novice.
Ouais, voilà, très novice. Donc, moi, je me suis dit, regarde, lui, il connaît ça. Et c'est pas pour dire que je suis pas satisfait avec le produit final, c'est sûr. Mais c'était juste, c'était tellement autre chose que jouer. Tu sais, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, regarde, je suis capable de faire ça. Devant public, en studio, ça doit être facile. Il n'y a pas de public pour te déranger. Et c'était complètement l'opposé.
Oui, parce que tu n'avais pas l'énergie du public pour porter, en fait.
Voilà. Et après que l'album est terminé, puis c'est drôle, puis l'album n'est pas terminé. C'est ça qui est drôle. Tu me dis L'Homme Exponentiel, puis je me dis c'est l'album qui n'est jamais devenu, tu sais, qui n'est jamais devenu ce que...
Ce qu'il aurait dû être.
Moi, l'album était supposé être un double disque. Il y avait une pochette, un livret de 32 pages, et chaque page avait une œuvre artistique qui était créée par Michel Galipeau, un de nos grands chums. On était un quatuor. Il y avait moi, Daniel Bédard, qui s'occupait du volet musique, si on veut. Moi aussi, humour. Michel Dallaire, poète, écrivain, il avait publié plein de livres. Et Michel Galipeau, qui est artiste visuel. Puis on était vraiment cette gang-là, et on se rencontrait tous les mercredis. On jouait pour Les Ailes de Poulet, qui était 2 pour 1. Maintenant, c'est à tous les jours. Mais dans le temps, c'était 2 for 1 wings, et on jasait. Et la seule contrainte, c'est qu'on n'avait pas le droit de parler de musique. On n'avait pas le droit de parler de la job. Fallait jaser d'autres choses. Et tous les midis, on se rencontrait pour jouer au crib. Ce jeu de cartes avec les pitons, là, tout ça. Donc, on jouait au jeu de crib et on s'est dit, garde, on participait dans les projets de tout le monde. Donc, Michel Dallaire avait publié un livre, la couverture du livre était créée par Michel Galipeau. Là, il a dit, garde, je veux l'enregistrer, cool, c'est Daniel Bédard qui le réalisait. Moi, je rentrais, je faisais des voix, je faisais des lectures. On s'entraidait de même toujours. Et donc, le projet, c'était vraiment ça, puis c'était un album concept, L'Homme Exponentiel, où c'est un gars qui regarde la TV. C'est des postes de TV qui changent. Donc, c'est pour ça que l'album est tellement, il n'y a aucune cohésion entre les chansons.
Il
n'y
a pas de fil rouge, quoi.
Yeah. C'est pour ça que les gens, quand ils l'écoutaient, ils disent, mais non, on ne sait pas, c'est-tu du funk, c'est-tu ça, c'est-tu ci, c'est-tu ça. C'est tout, là, je suis capable de tout faire. et là, tu ne réalises pas à quel point que les disquaires, pas les disquaires, mais les compagnies de disques, les festivals et tout ça, ils veulent pas ça. Là. Ils veulent, regarde, on veut être capable de vendre ça et de l'expliquer en une phrase. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a jamais complété l'album double avec tout, tu sais, on entendait les postes qui changent, on avait écrit des pubs de télé et tout ça, les vraies versions comme...
C'est plus un spectacle, en fait, qu'un album.
Voilà. Donc, pour te plaire, sur l'album, je pense, parce que ça s'appelle les singles. Donc, on a tout coupé les chansons pour qu'ils soient, si on veut, jouables à la radio, parce qu'il y a quand même forcément un temps limite pour certaines radios. Pour te plaire, sur l'album intégral est 7 minutes 30 secondes, tu comprends? Comme, parce que Michel Galipeau a perdu la vie.
Ouais.
Et donc, ça comme ralentit des choses. Et je m'en veux encore aujourd'hui, à ce jour, de jamais avoir complété cet album-là comme il méritait d'être complété. T'sais. Il y a eu plein de monde qui ont donné leur temps bénévolement à venir faire des voix, à venir...
Participer au projet.
Ouais, puis ça existe encore. Hein. On a tout encore, tous les enregistrements. On a toute la pochette encore sur un logiciel. Et si je ne me trompe pas, la dernière fois, j'ai parlé à Daniel Bédard, parce qu'il ne reste que Daniel Bédard et moi-même. Malheureusement, les deux Michel se sont éteints. Il a dit peut-être pour le 25e. Il dit peut-être qu'on va le finir. Et là, tu m'annonces que ça fait 20 ans, donc il me reste 5 ans à le compléter. Donc c'est plein d'émotions, mais c'est aussi ma carte de visite. Tu vois, pour moi, c'est le premier album, c'est comme une carte que tu donnes aux gens qui t'espèrent que les gens vont accrocher. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça, il y a des gens qui ont moins aimé ça, mais ça m'a permis de m'inscrire dans des concours comme le festival en fête de Saint-Ambroise. J'ai fait le festival international de la chanson Granby. Donc, tu vois, donc, au moins, ça m'a ouvert ces portes-là. Sans ce produit-là professionnel, tu rentres pas dans ces portes-là, tu vois. Et aussi, écoute, j'ai rencontré des musiciens exceptionnels. On fait tout le temps la blague que l'album est super bon jusqu'à ce que je commence à chanter, parce que c'était des musiciens professionnels, des pros là, solides, mais c'était la liste de contacts au réalisateur, Daniel, tu vois. Et pendant toute cette production de cet album-là, la mère à Daniel est décédée, donc il y a eu plein de choses comme ça. Moi, Ambroise, plus tard, donc Daniel est devenu le parrain à ma fille, et donc, tu sais, c'est là où tu réalises à quel point que
vous étiez une tribu, quoi.
Yeah, c'est vraiment, là, c'est la deuxième famille, tu sais. T'as ta famille à maison, puis t'as ta famille musicale, puis donc, j'en suis fier. En spectacle, j'interprète encore quelques chansons de ce premier album-là. Puis c'est un peu bizarre, parce que des chansons, t'es certain, là. T'es tellement certain que cette chanson-là va percer, ou cette chanson-là va être un succès, parce que tu réalises pas à quel point que tout un côté business que tu connais pas...
Ou un côté émotionnel que toi, t'adores cette chanson et tu exactement. Comprends pas que les gens ils accrochent pas, mais vous êtes bizarre, elle est géniale cette chanson.
Ouais, pourquoi qu'elle tourne pas, tu sais? Donc, c'est difficile de les laisser aller. Des fois, tu te fais, come on, pourquoi que. Et là, il y a des gens qui font, bon, voyons donc, tu chantes encore ça, là, c'est de ton premier album. Oui, mais t'es encore bonne cette chanson-là. Tu vois, donc, mais l'homme exponentiel, c'est ça, j'en suis tellement fier. Ben, regarde, j'ai gagné le triomphe pour chanson primée pour l'homme exponentiel. Et là, tellement fier que j'ai même tatoué homme exponentiel sur mon corps. Donc, c'est ça, c'est greffé pour la vie. Donc, cet album-là, je l'ai pas juste dans le cœur, mais sur le corps aussi
dans
pour
la
le
peau.
Reste de mes jours. Ouais, c'est ça, dans la peau.
Alors justement, tu parlais un petit peu de toute cette ribambelle de personnes autour de ce projet et tout. Ouais. Ça faisait comme un peu une tribu, quoi.
Ouais.
Et du coup, ça me lance une perche incroyable pour le troisième extrait musical. C'est la tribu de Dana, de Mano. Pourquoi cette chanson? Parce que pour le coup, ça vient plus de chez moi que de chez toi. Ouais, moi, j'écoutais ça en France quand j'étais gamine.
Encore une fois, c'est tout le côté rap en français, puis je fais « voyons donc ».
Ouais, puis sur une musique celtique, pas une musique urbaine et tout.
Ouais, puis je fais « voyons donc, c'est quoi cette affaire-là ?» Et ça, c'était dans le temps, nous, en Ontario, on a ce qu'on appelle la FESFO. Dans le temps, c'était la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarienne. On a gardé l'acronyme FESFO. C'est devenu maintenant la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Donc, on créait des fins de semaine pour... prendre des jeunes leaders des écoles secondaires et d'aller vivre ces expériences-là en espérant qu'ils retournent dans leurs écoles puis qu'ils propagent la bonne nouvelle puis en français et tout ça. Et on était immersis dans la musique francophone toute la fin de semaine. D'ailleurs, je suis devenu vice-président de la FESFO en 12e année et cette chanson-là jouait tout le temps. Puis le début... Puis après ça, le drum, le snare, il frappe, tac, dans la... Puis là, je fais, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Et puis c'est drôle, c'est une de ces chansons-là que j'oublie jamais, tu sais. Comme même moi, je fais de la radio de nos jours, puis des fois, je vais à glisser, là. Je vais à glisser entre celle-là, puis Ensemble de Saint-Clair, tu sais. J'étais déchirant entre les deux, puis je me suis dit, non, la tribu de Dana, c'est vraiment celle qui m'a vraiment accroché, puis c'est drôle comment ces chansons-là t'ont marqué, puis là, tu réécoutes, puis tu fais, bon, bouf. Dans le fond, c'est pas si bon que ça, mais où t'es, dans le moment où t'es, dans l'âge que
cool,
tu as,
c'était cool,
tu sais. Puis encore une fois, c'est la même chose avec Vilain Pingouin. Du rock en français, voyons donc, ça existe. Et là, du rap en français, je fais, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? J'avais jamais entendu ça, tu vois. Donc, c'est... pour moi, je suis très fort sur les sons. Tu sais, je me souviens où que j'étais la première fois que j'ai entendu Smells Like Teen Spirit de Nirvana, tu sais.
Et t'étais où la première fois que t'as entendu la tribu de Donna?
Moi, j'étais dans un à la FESFO. On était une fin de semaine à la FESFO. On était à Elliott Lake. Et là, on est en train de dîner. C'est le temps de dîner. Donc là, ils mettaient de la musique. Et cette chanson-là joue. Et j'arrête. Puis je me souviens, tout le monde mangeait. Puis moi, je fais, voyons, mais vous... quoi, vous entendez pas ça? C'est quoi cette affaire-là? Là? Comme c'est... Donc, j'ai comme l'impression que j'ai tout le temps peut-être eu l'oreille à la musique. Puis ça, c'est grâce à ma mère qui nous jouait des cassettes de la musique constamment quand on faisait des longs voyages. J'imagine que ça vient de là. Mais encore à ce jour, tu sais, il y a des choses que j'écoute, puis je fais... Ah, ça t'accroche, puis c'est pas nécessairement la mélodie, tout ça, mais c'est... Il y a un son. Il y a un son que t'as jamais entendu.
C'est un truc qui fait boum, quoi.
Un truc qui fait comme boum. C'est ça. Et pour moi, la tribu de Donna, ben, ça fait boum.
Eh ben, écoute, on va faire boum tout de suite sur les ondes de Choc FM 105.1.
Souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Donna.
Voilà, j'espère que vous avez bien vu Steph danser sur cette musique. Bon, j'avoue, moi, j'ai pas mis la caméra sur moi parce que j'en sais tout
c'est
autant.
C'est encore bon, c'est encore bon.
C'est vraiment cool. Ouais, moi, franchement, ça me rappelle des souvenirs et tout. J'ai adoré cette chanson. Merci pour cet extrait Non, franchement, c'est cool. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je crois que j'avais eu même le CD single. Mes parents me l'avaient offert à un moment donné.
Okay.
Je l'avais, ouais, celui-là. Non, franchement, un bon souvenir. Alors, du coup, comme toutes les bonnes choses qui sont trop bien, bah, le temps passe trop vite. Il nous reste quasiment 5 minutes d'interview. Alors, avec la grande carrière que tu as et tous les prix et tout, on va devoir faire des choix, on va devoir parler d'autres choses. Du coup, moi, j'aimerais bien quand même qu'on parle en deux, trois mots de tes apparitions à l'écran, que ce soit dans les séries, que ce soit au cinéma, parce que tu as fait partie du film Noël en boîte.
Noël en boîte, ouais.
Il y a eu des séries aussi, Les Bleus de Ramville, Hard Rock Médical. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi ces trucs-là? À quel moment ça a
encore un autre hasard. Tu vois, moi, ma vie, c'est vraiment... Je pense qu'on m'a tout le temps dit la chance n'existe pas, tu la crées. Et c'est juste de t'intégrer dans des plans, c'est tout ça. Puis je me souviens un jour, j'étais rentré au bureau de Music and Film in Motion. Musique et film en mouvement à Sudbury, c'est un organisme pour promouvoir le Nord d'Ontario et les artistes du Nord d'Ontario. Et je rentrais là, je pense donner un CD de mes nouvelles chansons. Je connaissais la personne qui t'avait dit, hey, écoute-moi mes nouvelles chansons, tu le quittes. Et là, il me regardait et il dit, hey, t'es-tu ici pour les auditions?
Ah,
j'ai fait pardon. Il dit, moi, il y a des auditions, là, Météo Plus, nouvelle télésérie francophone qui s'en vient à Sudbury. Puis je dis, voyons donc, ça se passe pas de même. Il n'y a pas de télésérie francophone qui sont tournées à Sudbury. Là. C'est tout à Ottawa, Montréal. Voyons donc. Là. C'est non. OK. Donc, moi, curieux comme
pas deux.
Ben ouais. Je marche, puis je décide de marcher en avant de la porte où qui se tenaient les auditions. La porte était ouverte. Et qui était assis là? Robert Marnier, grand auteur, dramaturge Robert Marnier, originaire de Sudbury, qui m'a remarqué, « C'est pas rien! » Je dis, « Oui? Hey, t'es allé voir ton show à Ottawa? C'était vraiment bon! » Il dit, « C'était vraiment bon sur scène! » Je dis, « Ah, bien, merci beaucoup. Hey, t'as-tu 2 minutes? »« Ben oui. » Je dis, « Ah, on te ferait lire quelque chose. » »« OK. » Je suis rentré. Il dit, « Tu veux-tu que je le lis ou tu veux-tu que je l'apprenne par cœur? » Je dis, « Mais là, regarde, on a quelqu'un qui rentre tout de suite. T'as-tu assez de temps? » Oh oui, je vais aller dehors. Dans le temps, je fumais, j'étais dehors. Pris 2 cigarettes, j'ai lu, mémorisé tout ça. Et je suis monté en haut, j'ai fait mon audition.
T'avais cet art de l'impro aussi, où t'étais capable de pouvoir, en 2 minutes, te mettre dans n'importe quelle phase.
Et là, le réalisateur Derek Diorio, qui est devenu un grand ami, mais je me souviens tout le temps, il dit « Ah, mais merci, c'était très bon, mais t'es trop vieux. » Moi, je fais comme « Regarde, il n'y a pas de problème. » Moi, j'étais juste curieux pour moi.
Toi, t'es juste passé déposer ton CD, quoi.
Et trois semaines plus tard, j'étais en tournée, j'étais à Sarnia, en spectacle, et le téléphone sonne, il dit « Bonjour, c'est la productrice de ta-ta-ta-ta-ta. Vous êtes venu faire une audition? » Je fais « Oui. » Il dit « Bravo, vous aviez un rôle principal. » Et c'était le début de ma carrière de comédien à la télévision. Encore une fois, un hasard, tu vois. Parce que pendant beaucoup d'artistes, et j'avais cette idée-là dans la tête, le problème, mais peut-être pas problème, mais c'est en Ontario, tu te fais dire « Ah, t'es bon, t'es un modèle accessible tout de suite parce que tu chantes en français et tout ça, t'es bon, t'es ci, t'es ça. » Et là, tu fais « Ok, je suis bon, je suis ci. Je m'en vais à Montréal, puis je vais être une grosse vedette. » Et beaucoup ont essayé et...
Ils sont rentrés.
Et voilà. Et moi, je pense que la meilleure décision que j'ai faite, c'est de rester. Et c'était un autre hasard parce que ma copine m'a annoncé qu'elle était enceinte. Moi, je m'en allais à Montréal. J'étais là. J'étais le gars décidé. Je vais aller faire. Moi, c'est... Toi, t'as pas réussi, mais watch out. Moi, je vais réussir. Et j'ai resté pour élever ma fille. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise, tu vois.
Ouais, parce que sinon, ta carrière, elle aurait peut-être pris un tournant complètement différent, au final.
Puis il y a quelque chose de dire que quand, de nos jours, la francophonie canadienne est vraiment ouverte. Là. Pour longtemps, c'était le Québec. Le Québec savait que l'Acadie existait, mais l'ouest du Québec, pas sûr qu'on existait, tu vois. Tant les franco-albertains que les franco-manitobains, etc., etc. Là. Mais là, il y a quelque chose de cool de dire, quand on pense à qui il faut un artiste franco-ontarien, que je suis au top de la liste, je fais partie de la liste avec des Damien Robitaille, puis c'est pas n'importe qui Damien Robitaille, t'sais. Puis de dire, puis Robert Paquette et tout ça, puis de dire que je fais partie de cette liste-là, c'est si. Je sais pas, je trouve ça cool, tu sais. Moi, je veux juste continuer à travailler, je veux juste continuer à faire des spectacles et avoir du plaisir, tu sais. C'est vraiment, là, j'ai 49 ans, là, je sais que je deviendrai pas une grande vedette, je sais qu'il y a pas une compagnie de disques qui attend pour me signer, mais le téléphone sonne encore, puis ça, j'en suis très reconnaissant, tu sais. Puis je vais continuer à rouler ma bosse jusqu'à ce que le téléphone arrête de sonner, tu sais.
Et justement, en parlant de continuer à rouler ta bosse, dans quoi on va te revoir prochainement? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu vas être sur scène? Est-ce qu'il y a une série? Est-ce qu'il y a un film? Est-ce que... On sait plus où tu peux être, parce que tu peux être partout, en fait. On ouvre une porte, il y a Steph Paquette. Une autre, un placard, il est là. Donc, raconte-nous un petit peu quels sont tes projets pour cette année.
Cet été, on va avoir une première soirée francophone, musique francophone, dans le cadre du Festival Boreal, donc Northern Lights Festival Boreal. Superbe festival trilingue qui se passe à Sudbury.
Trilingue, français, anglais.
Et ben là, c'est peu importe l'autre, mais c'est des langues autochtones.
Okay.
Et c'est le plus vieux festival multilingue à l'extérieur du Québec.
Oh, ça, c'est génial, ça.
Ouais. Et on fait une soirée francophone. Midi Amdad, mon grand chum Midi Amdad, moi-même avec l'Orchestre symphonique du Grand Sudbury. Donc, je serai sur scène avec l'Orchestre symphonique du Grand Sudbury. Donc, mes chansons en orchestration, c'est quand même cool. Et ensuite, un petit inconnu qui s'appelle Zachary Richard qui va suivre. C'est un gars de la relève. Là. On le connaît pas très, mais ça a l'air qu'il est vraiment bon. Donc, ça, c'est le gros projet de cet été. Mais là, il y a plein de spectacles là, qui s'annoncent. Là. Puis regarde, la Saint-Jean approche. Ça a l'air qu'à 49 ans, il y a encore des écoles qui pensent que je suis modèle pour la jeunesse franco-ontarienne. Donc, je m'en vais faire des ateliers d'impro. Et... Moi, j'aime ça. C'est drôle. Parce que pour moi, si jamais dans ma tête, il y a eu des grosses tournées quand même, cochonnes. Mais pour moi, j'aime le fait que je me lève un jour, puis je fais un spectacle de musique. Le jour d'après, je suis en train de faire un atelier. Le jour d'après, je fais des voix
pour
des
dessins. Parce que ça représente un peu à toutes les facettes de ta personnalité aussi.
Je me tanne pas, tu sais. Je me tanne pas à faire la même affaire tous les jours. Donc, et là, je dois enregistrer aussi. On va enregistrer. J'ai eu une subvention. Merci, Conseil des Arts de l'Ontario. Moi qui avais dit que j'enregistrais plus jamais ma musique parce que je déteste être en studio.
Et bien, tu y retournes.
Et j'y retourne pour enregistrer avec l'Orchestre symphonique de Sudbury. Donc, voilà.
Et justement, avant qu'on se quitte en musique avec la chanson de Lisa Leblanc, Kraft Dinner. Est-ce que tu peux nous dire comment on te retrouve sur les réseaux? Comment on te retrouve sur la toile? Quels sont tes noms sur...
Je pense que je suis sur Spotify. Je sais que je suis sur Apple Music. J'ai pas de compte Spotify. J'ai pas de compte Apple Music. Moi, j'écoute toute ma musique sur des disques vinyles. C'est pas une blague. Là.
Quel homme!
Non, je sais, c'est ridicule. Hein? Mais je suis sur toutes ces plateformes-là. Facebook, Instagram, tout ça. Je suis tellement pas réseaux sociaux. C'est ça qui est drôle.
Donc, t'as pas de profil sur ces réseaux-là?
Oui, j'ai des profils, mais j'ai jamais eu un site web. Tu comprends? Comme moi, je regarde, là. Si vous voulez me trouver, vous allez être capable. Forcez-vous un petit peu, tu sais. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Merci de l'invitation. Hein. Honnêtement, là, c'était vraiment agréable. Merci beaucoup.
Ben écoute, si ça t'a plu, moi, ça m'a fait un grand, grand plaisir. En tout cas, un grand merci à toi, Steph Paquette, pour ce bel entretien. C'était vraiment un pur moment de bonheur avec toi. C'était Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous, un projet soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Et on écoute tout de suite Lisa Leblanc, Craft Dinner, la dernière chanson de ta sélection musicale. Salut Steph.
Salut.
Faudrait pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais j'trouve ça quétaine pour mourir, pis toi aussi. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin.